Alphonse de Ligory, Préparation à la mort, 8e considération. Mort des justes. La mort des justes est précieuse aux yeux du Seigneur. Premier point. Considérée selon la nature, la mort épouvante et sa vue fait horreur. Mais selon la foi, elle n'a rien que de consolant et devient même l'objet de nos désirs. Elle paraît terrible aux méchants, mais les justes la trouvent aimable et précieuse parce que, dit saint Bernard, ils la considèrent comme la fin de leurs travaux, le complément de leur victoire et la porte de leur vie. Oui, la mort est le terme de nos travaux et de nos souffrances. L'homme né de la femme vit peu de temps et il est rempli de beaucoup de misère. Telle est notre vie. Elle est courte et elle est toute remplie de misère, d'infirmités, de craintes et de passions. Les mondains qui désirent une longue vie ne désirent que de longues souffrances, dit Sénèque. Qu'est-ce que continuer de vivre ? Sinon, continuer de souffrir. Qu'est-ce que vivre longtemps, sinon souffrir longtemps? Cette vie, dit saint Ambroise, ne nous est pas donnée pour nous reposer, mais pour travailler et mériter par là la vie éternelle. C'est ce qui a fait dire à Tertullien qu'en abrégeant la vie d'un homme, Dieu abrégerait ses souffrances. C'est encore pour cela que, bien que la mort soit pour l'homme la peine de son péché, elle paraît cependant, dit saint Ambroise, lui avoir été donnée non comme une pénitence, mais comme un soulagement. Dieu lui-même appelle bienheureux ceux qui meurent dans sa grâce parce que leurs fatigues sont finies et qu'ils vont jouir du repos. Heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, dit l'Esprit Saint, ils se reposeront de leurs travaux. Les tourments qui affligent le pécheur à la mort ne sont pas faits pour les justes. Leurs âmes sont dans les mains de Dieu, où les tourments de la mort ne sauraient les atteindre. Les justes entendent sans crainte cet arrêt de leur départ, qui épouvante si fort le pécheur. Partez. Ils ne s'affligent pas de quitter les biens de ce monde, parce que leur cœur en est déjà détaché. Ils meurent en disant à Dieu : Vous êtes le Dieu de mon cœur et mon partage pour jamais. Que vous êtes heureux, écrivait l'apôtre saint Paul à ses disciples, qui avaient été dépouillés de leurs biens pour Jésus-Christ. Que vous êtes heureux, vous qui avez vu avec joie tous vos biens pillés, sachant que vous en aviez d'autres bien plus excellents et qui ne périront jamais. Les saints ne s'affligent point de ce qu'il leur faut quitter les honneurs de ce monde, parce qu'ils les ont fuis pendant leur vie, parce qu'ils les ont toujours regardés comme de la fumée et de la vanité. Et c'est ce qu'ils sont en effet. Un seul honneur a pu leur plaire, celui d'aimer Dieu et d'en être aimé. Ils ne s'affligent pas de quitter leurs parents, parce qu'ils ne les ont aimés que pour Dieu, et qu'en mourant, ils les laissent entre les mains de ce Père céleste qui les aime plus qu'eux. Parce que, ayant l'espérance d'arriver au ciel, ils pensent que dans cet heureux séjour, ils auront plus de moyens de leur être utiles que sur la terre. En un mot, ils répètent à la mort avec plus de consolation et plus d'amour qu'ils ne l'ont dit pendant la vie : Vous êtes mon Dieu et mon tout. Celui qui meurt dans l'amour de Dieu ne s'inquiète guère des souffrances qui accompagnent les derniers moments de la vie, ou plutôt il les aime, en se souvenant que sa vie va finir, qu'il n'aura plus le temps de souffrir pour Dieu, et que ce sont les derniers témoignages qu'il peut lui donner de son amour. C'est pourquoi Il lui offre avec courage et résignation les derniers restes de son existence. Il se console en unissant ce sacrifice à celui que Jésus-Christ offrit autrefois pour lui sur la croix. C'est ainsi qu'il meurt tranquillement en disant « Je m'endormirai en paix dans le Seigneur et je jouirai d'un parfait repos. » Oh, quelle paix goûte celui qui s'endort avec abandon dans les bras de Jésus-Christ, qui nous a aimés jusqu'à la mort et a bien voulu expirer dans les tourments les plus cruels, pour nous mériter une mort douce et paisible. Affections et prières. Ô mon Jésus, qui, pour m'obtenir une mort paisible, avait bien voulu mourir sur le calvaire au milieu des plus cruelles souffrances, quand vous verrai-je? La première fois qu'il me sera permis de vous envisager, ce sera en qualité de mon juge, en ce même lieu où je respire. Que vous dirai-je alors et que me direz-vous? Je ne veux point attendre à ce moment pour penser à vous. Je veux y songer, longtemps avant. Alors je vous dirai, ô mon divin Sauveur, vous êtes donc ce Jésus qui est mort pour moi. Pendant longtemps, je vous ai offensé. J'ai été un ingrat. Je ne méritais point d'indulgence. Mais avec le secours de votre grâce, je me suis corrigé et pendant le reste de ma vie, j'ai pleuré mes péchés. Et vous m'avez pardonné. Pardonnez-moi de nouveau maintenant que je suis à vos pieds. Accordez-moi vous-même le pardon généreux de mes fautes. Je ne méritais plus de vous aimer pour avoir méprisé votre amour. Mais vous, ô mon Dieu, par un effet de votre miséricorde, vous avez attiré mon cœur. Maintenant que vous lui parlez, je vois bien que le paradis et la possession de vous-même est une trop grande faveur pour moi. Mais je ne puis vivre loin de vous. Surtout depuis que vous m'avez fait connaître plus amplement toutes les bontés de votre divine majesté. Je vous demande donc le paradis. Mais ce n'est pas pour la félicité qu'on y goûte, c'est pour vous aimer mieux. Envoyez-moi donc en purgatoire aussi longtemps que vous le trouverez bon. Je ne veux pas venir dans le séjour de toute pureté et voir dans mon âme les taches qui la souillent et la défigurent encore aujourd'hui. Envoyez-moi donc en purgatoire pour me purifier, mais ne me chassez pas pour toujours de votre présence. Il me suffit qu'un jour, selon votre bon plaisir, vous m'appeliez à chanter éternellement vos miséricordes. Mais aujourd'hui, ô mon bien-aimé, ô mon juge, bénissez-moi, dites-moi que je vous appartiens. Que vous m'appartenez et que vous m'appartiendrez toujours. Je vous aimerai toujours, vous m'aimerez toujours. Je m'éloigne de vous en ce moment, je vais au feu, mais j'y vais avec satisfaction, puisque j'y vais pour vous aimer, mon Rédempteur, mon Dieu, mon tout. Je m'éloigne, mais pendant tout le temps que je resterai loin de vous, ma plus grande peine sera d'être loin de vous. Je vais compter les moments de mon exil jusqu'au jour où vous m'appellerez à vous. Ayez pitié d'une âme qui vous aime de tout son pouvoir et qui soupire après le moment de vous voir, pour vous aimer mieux. C'est ainsi que j'espère pouvoir vous parler, ô Jésus. Donnez-moi la grâce de vivre de telle manière que je puisse vous dire un jour ce que je pense aujourd'hui. Donnez-moi la persévérance, donnez-moi votre amour. Ô Marie, Mère de mon Dieu, secourez-moi, priez Jésus pour moi. Second point. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort. Le Seigneur séchera donc lui-même les larmes que ses serviteurs ont répandues dans cette vie en vivant au milieu des peines, des tribulations et des combats continuels avec l'enfer. C'est un des plus grands sujets de consolation d'une âme en apprenant l'arrêt de sa mort, de penser que bientôt elle n'aura plus rien à craindre de ces dangers si nombreux qui pourraient l'entraîner au péché, de ces inquiétudes de conscience, de ces tentations du démon si fréquentes et si continuelles. La vie est une guerre perpétuelle avec l'enfer, dans laquelle nous sommes en danger de perdre notre âme. Nous marchons, dit saint Ambroise, au milieu des pièges et des embûches que nous tendent nos ennemis pour nous faire perdre la vie de la grâce. C'est ce danger qui fit dire à saint Pierre d'Alcantara au moment de sa mort « Mon cher frère, » il parle à un religieux qui cherchait à le soulager. « Mon cher frère, éloignez-vous parce que je suis encore dans cette vie et en danger de me perdre. » C'est la vue de ce danger qui faisait sentir à sainte Thérèse un mouvement de joie chaque fois qu'elle entendait sonner l'heure, en pensant qu'elle venait de passer une heure de combat. Et c'est ce qui lui faisait dire souvent, « À chaque instant de ma vie, je puis pécher et perdre mon Dieu. » C'est encore la vue de ce danger qui consolait les saints au moment de leur mort. Ils pensaient qu'ils touchaient au terme de leur combat et de leur souffrance, et qu'ils étaient prêts de s'assurer du bonheur de ne pouvoir plus perdre Dieu. On raconte dans la vie des pères qu'un d'eux, en mourant, riait tandis que les autres pleuraient. On lui en demanda la raison. « Et vous, reprit-il, pourquoi pleurez-vous puisque je vais au lieu de repos ?» Sainte Catherine de Sienne disait aussi en mourant, « Réjouissez-vous avec moi de ce que je quitte cette terre d'exil et que je vais au séjour de la paix. Si quelqu'un, dit saint Cyprien, habitait une maison dont les murs tomberaient en ruine, dont le plancher et le plafond trembleraient, dont toutes les parties sembleraient annoncer une chute prochaine, combien il devrait désirer d'en sortir ? Dans cette vie, tout semble conjuré pour la perte de notre âme. Le monde, l'enfer, les passions, les sens rebelles. Tout semble se réunir pour nous entraîner au péché et à la mort éternelle. « Qui me délivrera ?» s'écriait l'apôtre de ce corps de mort. Quelle joie pour l'âme de s'entendre dire « Viens du Liban, épouse chérie, viens des retraites des lions. » « Viens, mon épouse, sors de ces lieux de misère, fuis loin des repères affreux de ces lions qui cherchent à te dévorer et à te faire perdre le règne de Dieu. » C'est ce qui faisait désirer la mort à saint Paul et lui faisait dire que Jésus-Christ était son unique vie. C'est pour cela qu'à ses yeux la mort paraissait lui offrir le plus grand avantage qu'il pût obtenir, en lui procurant cette vie qui n'aura jamais de fin. « Jésus-Christ, disait-il, est ma vie, la mort m'est un gain. » C'est une grande faveur que Dieu fait à une âme lorsqu'elle est en état de grâce de l'attirer au-dessus de la terre, où elle est sans cesse en danger de perdre son amitié. Il a été enlevé de peur que la méchanceté ne corrompisse son intelligence. Heureux dans cette vie, celui qui vit, uni à Dieu. Mais de même qu'un hôtonnier ne peut se croire en sûreté qu'après être entré dans le port et avoir évité la tempête, de même l'âme ne peut se croire heureuse qu'après être sortie de cette vie dans la grâce de Dieu. « Vanter, dit saint Ambroise, le bonheur du hôtonnier, mais après qu'il sera arrivé au port. S'il se réjouit lorsqu'après des périls sans nombre il est prêt d'entrer au port, combien plus se réjouira celui qui est prêt de s'assurer de son salut éternel. D'ailleurs, on ne peut vivre sur la terre sans tomber au moins dans de légères fautes. Le juste tombera 7 fois dans un jour, dit l'Écriture. En quittant la vie, on ne court plus risque d'offenser Dieu. Qu'est-ce que la mort, dit saint Ambroise, sinon le tombeau des vices? C'est ce qui a toujours inspiré aux amis de Dieu un grand désir de la mort. C'est ce qui faisait la consolation du bienheureux saint Vincent Carafa qui disait « En finissant de vivre, je finis d'offenser Dieu ». Saint Ambroise disait « Pourquoi désirons-nous cette vie où plus nous restons, plus est grande la charge de nos péchés ?» Celui qui meurt dans la grâce de Dieu se met en état de ne plus pouvoir l'offenser. Les morts ne savent pas pécher. Aussi le Seigneur loue plus les morts que les vivants. Un homme du bien avait ordonné que lorsqu'il serait en danger de mort, on lui emporta la nouvelle en ces termes. Consolez-vous, voici enfin le temps où vous n'offenserez plus le Seigneur. Affections et prières. Je remets mon esprit entre vos mains. C'est vous qui m'avez racheté, Seigneur, Dieu de vérité. Hélas, que serais-je devenu, mon divin Rédempteur, si la mort m'avait surpris lorsque j'étais éloigné de vous? Je serais maintenant dans l'enfer et privé pour toujours du bonheur de vous aimer. Je vous remercie de ne m'avoir point abandonné et de vous être attaché mon cœur par tant de grâce. Je me repens de vous avoir offensé. Je vous aime par-dessus toute chose. Faites, je vous en conjure, que je connaisse de plus en plus et l'offense que je vous ai faite en vous oubliant et l'amour que mérite votre infinie bonté. Je vous aime et je désire mourir bientôt si telle est votre volonté pour me délivrer du danger où je suis, de perdre votre sainte grâce et pour être assuré de vous aimer éternellement. Pendant les années qui me restent encore à vivre, ô Jésus, mon bien-aimé, donnez-moi la force de faire quelque chose pour vous, avant que la mort vienne me surprendre. Donnez-moi le courage de résister aux tentations qui m'accablent et aux passions qui me tourmentent. Faites surtout que je résiste à celle qui, par le passé, m'a si souvent porté à vous déplaire. Donnez-moi la patience nécessaire pour supporter et les infirmités et les injures que je recevrai de la part des hommes. Dès maintenant, et pour votre amour, je pardonne de tout mon cœur à ceux qui m'ont causé quelques disgrâces, et je vous prie de leur accorder les grâces qu'ils désirent. Faites enfin que j'apporte plus de vigilance pour éviter même les fautes légères que j'ai commises jusque-là avec trop de facilité. Ô mon Sauveur, venez à mon secours. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je compte sur vos mérites et sur votre puissante intercession. Troisième point. La mort n'est pas seulement le terme de nos travaux, mais encore la porte de la vie, dit saint Bernard. C'est par cette porte que doit nécessairement passer celui qui veut jouir de la vue de Dieu. Voilà la porte du Seigneur, par elle entreront les justes. Saint Jérôme, s'adressant à la mort, lui disait « Ouvre-moi, ma sœur. Ô mort, ô ma sœur, si tu ne m'ouvres la porte, je ne puis aller jouir de la vue de mon Dieu. » Saint Charles Borromée, ayant vu dans son palais un tableau représentant un squelette armé d'une faux, fit venir le peintre et lui ordonna d'effacer cette faux et de peindre à la place une clé d'or, voulant, par cette vue, augmenter de plus en plus dans son cœur le désir de la mort, parce que c'est elle qui nous ouvre le ciel et nous procure la vue de Dieu. Saint Chrysostome disait : si un roi avait fait préparer à un de ses sujets un appartement dans son palais et qu'il le força en attendant à demeurer dans une chaumière, avec quelle ardeur cet homme ne désirerait-il pas d'en sortir pour aller habiter le palais du roi ? Pendant cette vie, l'âme est dans le corps comme dans une prison, d'où elle doit sortir un jour pour aller habiter le palais du roi des rois. Voilà pourquoi David disait à Dieu : « Seigneur, faites sortir mon âme de sa prison. » Voilà pourquoi le saint vieillard Siméon, tenant en ses bras le divin enfant, ne lui demanda d'autre grâce que la mort, pour être délivré de la prison de cette vie. « Maintenant, Seigneur, s'écriait-il, laissez partir en paix votre serviteur. » Il demande qu'on le laisse partir, dit saint Ambroise, comme s'il était retenu par quelque nécessité. C'est la même grâce que désire l'apôtre saint Paul lorsqu'il dit « Je souhaite voir arriver bientôt la dissolution de mon corps pour être uni à Jésus-Christ. » Quelle fut la joie de l'échanson de Pharaon quand il apprit de Joseph que, dans peu de temps, il sortirait de la prison pour être réintégré dans son emploi. Et une âme qui aime Dieu ne se réjouirait pas en apprenant que bientôt elle va quitter cette terre d'exil pour aller jouir vers la vue de Dieu ? Tant que notre âme est unie au corps, elle est privée de la vue de Dieu et placée, pour ainsi dire, loin de sa patrie et dans une terre étrangère. Voilà pourquoi, dit saint Bruno, notre mort ne doit point être appelé une mort, mais le commencement de la vie. Voilà pourquoi le jour où les saints sortirent de la vie est appelé le jour de leur naissance, parce qu'en mourant, ils naissent pour cette vie bienheureuse qui ne doit jamais finir. Il n'y a point de mort pour les justes, dit saint Athanase. Ils ne font que changer d'état. Leur mort n'est qu'un passage à la vie éternelle. Ô mort, que tu es aimable, dit saint Augustin. Quel est l'homme qui ne te désirera pas, puisque tu es le terme de nos travaux, la fin de nos fatigues et le commencement du repos éternel. Pénétré de la même vérité, un autre saint s'écriait, transporté, « Faites, Seigneur, faites que je meure, pour jouir plutôt de votre divine présence. » Le pécheur seul, dit saint Cyprien, doit craindre la mort, puisque la mort temporelle est pour lui le commencement d'une mort éternelle. Mais le juste n'a rien à redouter, puisqu'elle est, pour lui, le passage à une vie éternelle. On raconte dans la vie de saint Jean l'aumônier qu'un homme riche recommanda à ce saint son fils unique et lui fit des aumônes considérables, afin que, par ses prières, il obtînt de Dieu pour lui une longue vie. Mais il arriva que peu de temps après, ce jeune homme mourut. Le père se plaignait amèrement de la perte de ce fils chéri, lorsque Dieu lui envoya un ange qui lui dit « Tu as demandé une longue vie pour ton fils. Apprends qu'il jouit déjà dans le ciel d'une vie qui ne doit point finir. » C'est cette grâce que Jésus-Christ nous a obtenue et qui nous avait été promise par le prophète Osée lorsqu'il disait « Ô mort, je serai ta mort. » Jésus-Christ, en mourant pour nous, a fait que notre mort devient notre vie. Saint Pion, martyr, allant au supplice, surprenait ceux qui l'y conduisaient par son air de satisfaction et de bonheur. Ils ne purent s'empêcher de lui demander comment il pouvait se montrer si joyeux en allant à la mort. « Vous vous trompez, » répondit ce saint. « Ce n'est point à la mort que je vais, c'est à la vie. » C'est aussi par cette pensée que la mère du jeune saint Forien encourageait son fils à supporter les rigueurs du martyre. « Mon fils, lui disait-elle, on ne vous enlève pas la vie, mais on vous la change pour une meilleure. » Affections et prières. Ô Dieu de mon âme, je vous ai déshonoré par mes mépris, mais votre fils vous a honoré en perdant la vie sur l'arbre de la croix. Je vous en conjure donc, par cet honneur que vous avez rendu à votre bien-aimé fils, pardonnez-moi le déshonneur que je vous ai fait. Ô mon souverain bien, je me repens de vous avoir offensé. Je m'engage à n'aimer désormais que vous seul. C'est de vous que j'espère mon salut. Tout ce qu'il y a maintenant de bien en moi est l'effet de votre grâce, et c'est à vous que je le dois. Si, par le passé, je vous ai déshonoré, j'espère vous glorifier maintenant en bénissant éternellement vos miséricordes. Je me sens un grand désir de vous aimer. C'est vous qui me l'inspirez et je vous en remercie, ô mon divin amour. Ne cessez jamais de m'aider par votre grâce comme vous avez commencé à le faire. J'espère désormais être à vous et à vous sans partage. Je renonce à tous les plaisirs du monde et quel plus grand plaisir pourrais-je avoir que de vous aimer, ô mon aimable sauveur. Vous qui m'avez tant aimé le premier. C'est votre amour, ô mon Dieu, c'est votre amour seul que je vous demande. Et j'espère ne demander jamais que votre amour, jusqu'à cet instant heureux où, m'abandonnant en lui, j'arriverai au royaume de l'amour, où, sans plus le demander, je serai enivré d'amour, sans cesser un instant de vous chérir de toutes mes forces et pendant toute l'éternité. Ô Marie, ô ma mère, vous qui aimez tant votre Dieu et qui souhaitez si ardemment de le voir aimer, faites que je l'aime assez dans cette vie pour mériter de l'aimer éternellement dans l'autre.